Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Et cette précision des éléments d'actualité peuvent avoir évolué depuis notre enregistrement. Nous vous invitons à écouter nos journaux diffusés régulièrement. Le 19 janvier dernier, voyez l'entrée en vigueur de l'accord intervenu entre le gouvernement israélien et le Hamas, un accord de trêve davantage qu'un accord scellant la fin du conflit. Beaucoup de choses restent en effet à négocier. L'accord comporte trois phases. La première, celle qui a cours actuellement, consiste en un échange, otages israéliens d'un côté, de l'autre prisonniers palestiniens et retrait israélien des zones peuplées de Gaza. Le cessez-le-feu est jugé fragile, avec des chances de réussite plutôt minces après 15 mois de guerre à Gaza. D'autant qu'un autre conflit s'est éveillé avec l'opération lancée à Jenin le 21 janvier, ouvrant un nouveau front en Cisjordanie qui est au bord de l'embrasement. Quelle perspective pour cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, alors que l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens a été contrainte sur ordre d'Israël de baisser son rideau cette semaine à Jérusalem, cessant ainsi toute activité dans les territoires occupés. Quels compromis palestiniens et israéliens sont-ils prêts à faire? Le retour de Donald Trump facilitera-t-il un terrain d'entente? Le chef de la Maison-Blanche pourra-t-il résister à l'influente extrême droite israélienne, lui qui entend conclure un vaste accord de paix régional incluant les pays arabes opposés à l'Iran? Voilà beaucoup de questions pour nos invités par téléphone. Alain Diekhoff, directeur de recherche au Centre de recherche internationale, le CERI de Sciences Po, qui a récemment publié « Israël-Palestine, une guerre sans fin ». Bonjour.
Bonjour.
En studio, Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'IREMO. Bonjour.
Bonjour.
Et Nicolas Falaise, journaliste à RFI, spécialiste du Proche-Orient, qui vient de rentrer précisément de Cisjordanie et de Gaza. Bonjour.
Et d'Israël. Bonjour.
Votre regard à chacun sur l'évolution de la situation à Gaza et les accords d'aboutissement de la première phase de l'accord et des suivantes. Peut-être la question qui vous revient directement, Nicolas Falaise, en premier. Voilà, qu'est-ce que vous avez vu?
Alors, beaucoup d'incertitudes, et voire d'inquiétudes, hein, dans le regard des uns et des autres sur l'emboîtement des phases qui commencent maintenant. Cet accord de cessez-le-feu en plusieurs séquences, la première ira-t-elle jusqu'à son terme? Comment ensuite cela peut enclencher un processus à la fois de reconstruction, de stabilisation et éventuellement un processus politique dans la bande de Gaza et pour les territoires palestiniens en général. Tout ceci dans une équation régionale qui est en totale redéfinition et parmi les grandes inconnues qui planent sur ce paysage incertain, il y a la politique qui sera celle de Donald Trump au Moyen-Orient. Donc on entend cette grande incertitude et grande prudence de la part des différents acteurs, qu'ils soient israéliens ou palestiniens.
Alors, grande incertitude. Alain Diekhoff, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce qui se joue en faveur ou en défaveur de cet accord? Quels sont, d'après vous, les points à observer plus particulièrement?
Alors d'abord, je suis d'accord pour dire qu'en effet, les incertitudes sont nombreuses, mais j'ai en même temps tendance à penser que pour le moment, tout au moins, les parties ont intérêt à ce que l'accord fonctionne. Bon, d'une part, le Hamas, parce qu'il obtient quelque chose, à savoir le retour de prisonniers et puis aussi l'élargissement de détenus administratifs, donc ça n'est pas rien. Il montre qu'il continue à exister, qu'il a été certes affaibli d'un point de vue militaire par l'offensive israélienne, mais il reste présent comme acteur. Donc pour lui, la simple survie et le fait de continuer à montrer qu'il existe comme acteur politique, c'est déjà un atout. Et du côté israélien, l'opinion est très largement favorable à l'accord et au retour des otages, et qui reviennent au compte-gouttes, mais qui reviennent. Et donc ça, c'est un plus au niveau de l'opinion publique. Et Netanyahou, finalement, je pense, tient aussi à adhérer à cet accord parce qu'il s'est malgré tout rendu compte que la stratégie du tout militaire avait des limites et que l'armée ne serait jamais en mesure, même en continuant encore la guerre pendant longtemps, de complètement éradiquer, comme c'était l'objectif initial, le Hamas. Objectif auquel, personnellement, je n'ai jamais cru, mais qui était en fait ce qui était avancé. Donc voilà, ça me rend, je dirais, modérément optimiste, au moins pour l'accord en cours. Mais évidemment, on parle vraiment d'un accord finalement technique, très très limité. Il y a énormément d'enjeux politiques au-delà, mais qui ne sont pas encore abordés du tout.
Alors, on l'abordera bien sûr. Jean-Paul Chagnolot, Benjamin Netanyahou, il n'est pas seul au gouvernement. Il a une position qui est particulièrement délicate.
En fait, moi, je souscris à ce qui a été dit. Je crois que le mot-clé en ce moment, évidemment, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude et qu'effectivement, je rejoins Alain Dikoff, je vous rejoins pour dire qu'il y a des intérêts qui pourraient faire penser, pour les uns comme pour les autres, que ce cessez-le-feu pourrait aller jusqu'au bout, mais au bout de la première phase, c'est-à-dire le mois de février, puisque la première phase s'arrête le 2 mars. Cela dit, tout est possible, y compris le pire, parce que dans cette région, il y a vite des basculements. Du côté du gouvernement israélien, il a été dit à plusieurs reprises qu'ils étaient prêts à reprendre la guerre assez vite. Donc je crois que dès qu'on a dépassé le 2 mars, et même avant, je suis assez sceptique, quoi. Et puis surtout, on avance, mais sans savoir où, quoi. C'est ça la grande question. Et en plus, il y a des événements qui viennent alourdir la situation. Et parmi ces événements, évidemment, il y a ce qui se passe en ce moment avec l'UNRWA. Il faut bien comprendre l'importance...
L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.
Oui, c'est donc ils sont à partir du 30 janvier, c'est-à-dire
maintenant. Jeudi dernier.
C'est-à-dire, oui, voilà. Et donc, à partir de là, ça veut dire qu'ils n'ont plus la capacité d'agir, ce qui est énorme. Enfin, c'est une rupture terrible. Même si sur le plan juridique, alors là, ça pose une question très intéressante. C'est que Israël peut l'empêcher sur son territoire au sens juridique du terme, mais elle ne peut pas le faire, juridiquement parlant, dans les territoires qui sont occupés. Et donc, y a vraiment une bataille juridique et politique là-dessus. Mais évidemment, ça contribue à alourdir encore les difficultés qui sont immenses, en particulier pour les Gazaouis qui ont réussi malgré tout. Et ça, c'était pas du tout gagné d'avance, rentrer au nord et s'installer non pas chez eux, mais sur chez eux, si j'ose dire, en plantant leurs tentes sur les maisons détruites.
Alors justement, Nicolas Falaise, je le disais précédemment, vous revenez d'Israël. À quoi ressemble le territoire dans lequel les Gazaouis sont en train de rentrer? Qui peut acheminer l'aide dont les Palestiniens ont besoin? Qu'est-ce qui est en jeu pour la population? Retour à l'autonomie qui n'est évidemment pas pour demain.
Alors, le territoire de la bande de Gaza reste inaccessible aux journalistes. Hein, ça, c'est quelque chose qui est constant entre avant et après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Néanmoins, on a tous vu, par les journalistes palestiniens présents sur place et les images qui sortent de la bande de Gaza, ces images tout à fait spectaculaires de centaines de milliers de civils retournant chez eux. Donc, on a un effet très concret de l'entrée en vigueur et d'une mécanique de cessez-le-feu qui commence à produire ses effets. Alors, ce sont des civils qui rentrent dans un paysage de désolation totale, dans des maisons, des quartiers entièrement détruits, sans eau, sans électricité, ce qui pose évidemment des questions vertigineuses que l'on connaît depuis déjà des mois sur la durée, l'ampleur et le coût d'un tel chantier de reconstruction. Néanmoins, ça s'inscrit dans leur réalité aujourd'hui de ne plus être bombardés et de pouvoir effectuer ces mouvements dont ils étaient privés jusqu'à aujourd'hui. L'autre changement très concret, c'est l'entrée massive de l'aide humanitaire, qui se chiffre en dizaines ou centaines de camions par jour. Et là aussi, on peut imaginer que c'est un impact humanitaire très très concret dès maintenant et à moyen terme dans la bande de Gaza.
Et pardon, je vous interromps, suffisant ?
On partait de tellement bas que l'effet sur la population semble avéré, mais encore une fois, il y a de tels enjeux d'accès à l'énergie, à l'eau propre, aux soins, que on est dans une population de plus de 2 millions de personnes tout à fait démunies. Il va en falloir des milliers de camions pour leur venir en aide, et on ne parle même pas encore de la reconstruction. C'est là où on s'approche du sujet vertigineux, qui est celui d'un vrai après-guerre qui inclut la reconstruction dans un territoire dont les gens ne peuvent toujours pas sortir, c'est-à-dire comment reconstruire une maison sur la tête d'une famille qui n'en a plus.
Et avec qui ? Ça, c'est une autre question.
Géopolitique.
Alors, la situation à Gaza, Nicolas Falaise nous en a fait une description. Alain Diekhoff, l'autre question, c'est les évolutions récentes en Cisjordanie. Est-ce que il y a là prélude à une véritable annexion par Israël, et quelles conséquences cela pourra-t-il avoir? Comment vous analysez ce qui se passe en Cisjordanie, Alain Diekhoff?
Disons, difficile de répondre sur la question proprement dite de l'annexion, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu d'ailleurs tout au long de la guerre à Gaza, et c'était en réalité déjà antérieur à la guerre, des offensives militaires régulières en Cisjordanie depuis maintenant trois bonnes années, surtout dans les camps palestiniens, tout le Carême, Naplouse et autour de Jenin en particulier, le camp de Jenin, pour combattre toute une série de groupes palestiniens, islamistes ou non d'ailleurs. Donc il y avait déjà une situation de guerre certes localisée, qui n'a rien à voir évidemment avec ce qui a pu se passer à partir du 8 octobre 2023, mais quand même une situation de guerre présente avec des points de force, des points de cristallisation. Il y a un peu une relance plus forte encore de la confrontation depuis en effet le cessez-le-feu à Gaza, où il y a visiblement une concentration de certaines forces militaires israéliennes, toujours dans ces mêmes points de fixation. Et je voudrais aussi ajouter que dans certains endroits, elle s'inscrit en complémentarité de l'action entreprise par l'autorité palestinienne. C'est le cas en particulier du camp de Jenin, parce que c'est vrai qu'on parle depuis une dizaine de jours maintenant de l'offensive militaire israélienne, mais il faut voir qu'elle s'inscrit dans cette semaine de campagne des forces de sécurité de l'autorité palestinienne contre les mêmes groupes. Donc là, on voit un peu une coordination à l'évidence entre l'autorité palestinienne et Israël contre les groupes islamistes en particulier.
Jean-Paul Chanulot, votre commentaire sur la Cisjordanie et cette question, est-ce qu'il y a un feu vert de Donald Trump? On a vu le président américain décider qu'il n'y aura plus de restrictions de vente d'armes américaines à Israël et puis plus de poursuites pour les colons.
Écoutez, ça n'a rien d'étonnant. On connaissait la politique de Trump avec son précédent mandat, donc on ne sait pas encore ce qu'il va déployer aujourd'hui. Déroulé aujourd'hui, mais enfin, ça sera certainement dans la même direction. Et tous les indices qu'on peut avoir montrent qu'il va soutenir à fond la politique, pas simplement Netanyahou, mais de la droite et de l'extrême droite israélienne, avec en perspective, effectivement, la volonté, comme il l'a eu en 2020, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup débattu, à un moment donné, d'annexion. On était, semble-t-il, à deux doigts au lendemain des accords d'Abraham, ou du moins dans la foulée des accords d'Abraham. Moi, je crois que le vrai enjeu, finalement, c'est bien ça, c'est la Cisjordanie. C'est là que tout se joue. Gaza a toujours été périphérique. Alors, c'est revenu au centre, évidemment, pour les raisons que chacun connaît. Mais personnellement, moi, je pense que cette guerre à Gaza, pour moi, a toujours été une forme d'impasse stratégique. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, il fallait que Israël réponde par la force à une attaque, l'attaque du 7 octobre, mais sans aucune espèce de perspective politique. Et jusqu'à maintenant encore, on est toujours dans le militaire, strictement dans le militaire, et on est complètement du côté israélien, et enfin en tout cas du côté du gouvernement, dans une espèce d'aveuglement politique. On refuse attaquer à nouveau, se focaliser sur la Cisjordanie. C'est toujours du militaire, ça. Et là, je crois que l'autorité palestinienne se fait instrumentaliser, elle ne pèse plus rien justement aujourd'hui, donc on a un vrai problème d'interlocuteur en Palestine, et puis donc on est vraiment dans une situation qui est à tous égards une impasse, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on fait après ? Cette fameuse idée du jour d'après qu'on a toujours voulu mettre de côté. Il y a eu beaucoup de réflexions à Paris, notamment pour essayer de réfléchir au jour d'après d'un point de vue politique. Mais tant qu'on ne posera pas la question politique, c'est-à-dire qu'on sort de ce rapport de force et qu'on se dit « bon, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir ?» Il n'y a rien. Et ça, c'est terrible, parce qu'on va dans une impasse. Enfin, on va nulle part. On se retrouve avec les mêmes problèmes, avec la question Israël-Palestine, avec en plus, évidemment, la question immense de la reconstruction de Gaza, mais aussi la reconstruction politique. Je dirais même aussi la reconstruction psychologique, c'est-à-dire que il faut imaginer dans quel état se trouvent aujourd'hui les Gazaouis, et en particulier, moi je pense beaucoup aux enfants et aux adolescents qui viennent de vivre, quand on a 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce truc épouvantable, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils vont penser de leur propre avenir, et par conséquent de leur propre positionnement par rapport à cet avenir, y compris à un moment donné en termes de combat politique. Est-ce qu'on doit aller vers une négociation qui n'existe pas, ou est-ce qu'on va prendre les armes? Donc on est dans cette espèce d'impasse aujourd'hui, et tout va dépendre effectivement de ce que Washington va suggérer, en espérant que peut-être, même si je n'y crois pas beaucoup, non pas les Européens, mais certains Européens prennent une initiative. Paris avait quelques idées, notamment avec l'Arabie Saoudite, et aussi le positionnement de l'Arabie Saoudite, on en parlera sûrement,
oui,
c'est très très important,
parce
que c'est sans doute l'acteur arabe qui a le plus de moyens pour infléchir et sortir de cette impasse stratégique.
Il y a un sommet qui est prévu entre la France et l'Arabie Saoudite, de mémoire, c'est au mois de juin, juin prochain.
Oui.
Nicolas Falaise, je me tourne vers vous. Effectivement, la question politique qu'évoquait Jean-Paul Chagnolot, je cite Anthony Blinken, l'ancien secrétaire d'État américain sous Joe Biden, qui disait que le refus israélien d'envisager une solution politique au conflit israélo-palestinien, c'est la recette d'une insurrection résistante et d'une guerre perpétuelle. Est-ce qu'on peut dire qu'un moment important se joue pour Israël en ce moment, Nicolas Falaise ?
Certainement, et dans une perspective historique, c'était finalement déjà le cas avant le 7 octobre 2023, dans un pays profondément fracturé entre les projets du gouvernement actuel, qui est le plus à droite de l'histoire du pays, son projet de réforme judiciaire qui faisait peser une menace considérable sur le récit démocratique de ce pays. Et évidemment, la situation s'est encore aggravée avec les attaques du 7 octobre 2023, le choc qu'elles représentent dans un pays qui se conçoit comme étant le refuge précisément censé éviter que cela ne se produise. Et puis la fuite en avant dans la guerre que l'on observe jusqu'à il y a quelques jours de cela. Donc le fait qu'aujourd'hui le pays soit dans cette conjonction de doute, de crise et de remise en question, c'est une évidence. Ce qui ne change pas, c'est la solidité de cette coalition droite-extrême droite, même si l'un des partis, Otzma Yehudit, de l'ex-ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a quitté le gouvernement et la coalition en protestation contre la mise en œuvre du cessez-le-feu. On voit bien qu'on a quand même un gouvernement, une coalition dont les différents acteurs, les plus à droite sur l'échiquier politique israélien, souhaite que cette coalition dure, elle doit encore durer presque 2 ans au terme du calendrier électoral, et puisse mener à bien ce dont il rêve. Et ce dont il rêve, c'est effectivement mettre à mal toute idée d'État palestinien et, pour la frange nationaliste religieuse, annexer tout ou partie de la Cisjordanie. Donc ça reste profondément ancré dans l'agenda politique de ce qui cimente la coalition de Benjamin Netanyahou aujourd'hui.
Alors je vous pose la question à Alain Diakhoff pour une réponse en 1 minute 30 sur ce moment particulier. Peut-être, bien sûr, on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission, Alain Diakhoff.
Alors, le moment particulier, alors pour du côté, en tous les cas, israélien, je pense qu'en effet, pour le moment, la coalition est assez solide, même si en effet, le plus extrême des partis de Ben-Gvir a quitté la coalition. Mais bon, Netanyahou a encore une majorité. Et je pense que, pour le moment, on va continuer avec les acteurs que nous connaissons. La grande question, évidemment, ça va être quel impact va avoir la politique de Trump. C'est ça qui déterminera les évolutions régionales, en tous les cas sur le dossier israélo-palestinien et peut-être même au-delà dans les mois à venir.
Mais ce que j'avais en tête, c'était aussi un moment important pour Israël. Jean-Paul Chagnolot, je me tourne vers vous. Mais face au monde aussi, c'est-à-dire que là, il y a un cessez-le-feu, on l'a dit, fragile, mais il y a vraiment une fenêtre qui s'ouvre. Et de cela, beaucoup de choses découleront, Jean-Paul Chagnolot.
Une fenêtre, je ne sais pas ce que vous voulez dire par une fenêtre, parce qu'en fait, les contradictions dans lesquelles se trouve le gouvernement israélien aujourd'hui sont considérables. Et on considère aujourd'hui la dimension internationale, mais il y a aussi la dimension interne. Ce qui vient de se passer avec la Cour suprême, par exemple, il n'y avait pas de président à la Cour suprême pendant des mois, il vient juste d'en avoir un, et ce n'est pas du tout ce que souhaitait le gouvernement. Enfin, donc, c'est une fenêtre qui demande à être ouverte, on va dire, pour résumer la formule.
Jean-Paul Chagnolot, on vous retrouve avec Alain Diakhoff qui est avec nous par téléphone et Nicolas Falaise après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur le conflit Israël-Hamas. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Alain Diekhoff, directeur de recherche au Centre de recherche international de Série de Sciences Po, qui a récemment publié Israël-Palestine, une guerre sans fin. Avec moi en studio, Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'IREMO, et Nicolas Falaise, de retour tout juste de Jérusalem, et reportage en Cisjordanie, journaliste à RFI, spécialiste du Proche-Orient. La question de la relation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Où, qu'est-ce que l'on sait véritablement de l'agenda de Donald Trump sur la question israélo-palestinienne et finalement aussi le niveau d'engagement du président américain, Jean-Paul Chagnolot?
Je pense que tous les indices qu'on peut avoir, par exemple la nomination de l'ambassadeur américain à Tel Aviv, tout ça montre bien qu'ils sont dans un soutien absolu de la politique que veut mener la droite et l'extrême droite israélienne, c'est-à-dire d'abord la colonisation, et un de ces signes, vous l'avez vous-même évoqué, c'est le fait qu'il a levé les sanctions sur les quelques colons extrémistes qui avaient subi ces sanctions de la part de l'administration Biden, et puis cette perspective, bon, intensifier la colonisation, intensifier la répression, il y a quand même des avions qui ont bombardé, c'est quand même quelque chose dans ce territoire occupé, et puis bien entendu, cette perspective, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, d'annexion en tout ou partie, c'est vraiment, c'est ça qui est à l'ordre du jour. Mais tout ça nous amène à quoi? Ça nous amène nulle part, là où, quand je parlais d'impasse stratégique, ça veut dire qu'Israël va se retrouver en situation d'une forme d'apartheid, parce qu'évidemment, les gens qui vont être annexés, s'ils l'étaient, ils n'auraient aucun droit, bien entendu. Donc ça pose vraiment une question. On est dans l'absurdie, complètement. L'absurdie, non pas l'absurdité, mais l'absurdie, en pays d'absurdie. Et puis je voudrais dire un mot quand même sur un point qu'on oublie toujours, c'est la question de la justice pénale internationale. Moi, je suis très attaché à ça, quels que soient les acteurs. En l'occurrence, ici, il s'agit de Netanyahou, qui a quand même un mandat d'arrêt qui a été lancé par la CPI pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Et donc, il y a toute une réflexion à mener là-dessus. Et en particulier, vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que Gaza est toujours inaccessible, mais il y a aussi inaccessible pour les journalistes, mais inaccessible aussi pour les enquêteurs de la CPI. Et ça pose question. Donc, il y a cette dimension-là qui va forcément, à un moment ou à un autre, surgir, parce qu'elle est très importante d'un point de vue juridique, mais bien entendu d'un point de vue politique aussi.
Alors, j'en reviens à l'agenda de Donald Trump, qui a pour objectif, on l'évoque maintenant, la normalisation avec l'Arabie Saoudite, normalisation avec Riyad. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un deal entre Washington et Tel Aviv? Et qu'est-ce que l'on en sait, Nicolas Falaise?
Alors, on a surtout trois acteurs qui font chacun un pari, hein. Pour les États-Unis, il s'agit de prolonger les accords d'Abraham avec une normalisation Arabie Saoudite-Israël qui permettrait de rapprocher les deux grands alliés de Washington dans la région. Pour l'Arabie Saoudite, il y a le souhait d'un pacte stratégique sans précédent avec les États-Unis et un rapprochement avec Israël qui conforterait la stabilité de la région et les projets de développement du royaume. Mais cette condition saoudienne, il faut que ça soit assorti d'un chemin clair vers un État palestinien. Et il y a le pari d'Israël qui est, oui, notre ambition, c'est le rapprochement avec l'Arabie Saoudite, mais le pari, c'est qu'aujourd'hui, le coût soit moins élevé avec Donald Trump à la Maison-Blanche, que finalement, le Royaume renonce ou recule sur cette condition d'un chemin clair vers l'établissement d'un État palestinien, et que finalement, Israël puisse obtenir cette rupture énorme, hein, dans le paysage géopolitique du Moyen-Orient avec une réconciliation avec l'Arabie Saoudite sans avoir à payer le prix de cet État palestinien. Je crois que ça va occuper une bonne partie de l'année 2025 avec cette idée que, une fois de plus, le droit légitime des Palestiniens à revendiquer leur État se retrouve être la variable d'ajustement d'une région qui cherche à se recomposer.
Et les intérêts de l'Arabie Saoudite, Alain Diekhoff, dans ce rapprochement avec Israël, sous couvert ou sous baguette magique de Donald Trump, finalement, c'est cela aussi?
Les intérêts, c'est un ensemble d'intérêts nationaux. Hein. Le pays, en particulier avec le prince héritier, s'est beaucoup transformé, veut se moderniser, veut quelque part, évidemment, jouer un rôle régional. Et depuis maintenant de longues années, il sait que cette normalisation régionale va passer dans le cadre de ce qui a été lancé en 2000, hein, c'est-à-dire en effet des accords d'Abraham. La question, c'est en effet de savoir qu'est-ce qui va être sur la table pour permettre cette normalisation israélo-saoudienne. Avant le 7 octobre, je dirais qu'il n'y avait pas grand-chose sur la table et qu'on pouvait sembler se diriger vers une sorte de normalisation dans laquelle il n'y aurait vraiment pas grand-chose pour les Palestiniens. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu différent parce que l'Arabie saoudite ne peut pas complètement, après cette guerre atroce, faire comme s'il n'y avait rien eu. Et donc, l'Arabie saoudite va demander à ce qu'il y ait quelque chose aussi pour la question palestinienne. Mais c'est le contenu de ce quelque chose qui reste imprécis. C'est-à-dire, bon, un État totalement souverain, etc., ça paraît complètement utopique, mais quelque chose qui pourrait davantage ressembler à ce que Trump avait proposé lors de son premier mandat, qui était évidemment très loin d'être un État de plein droit, mais qui avait quand même certains attributs de l'État, même si limités. Peut-être que c'est quelque chose qui reviendra, je n'en sais rien, mais c'est quelque chose de ce style-là qu'on peut imaginer. Mais en tous les cas, de toute façon, la marge de manœuvre, à mon sens, elle va être extrêmement, extrêmement tenue. Ce qui est sûr, c'est que Trump tient à un accord. Et on sait aussi, on l'a déjà eu, même si ça ne fait pas très longtemps qu'il est aux manettes, on a déjà vu qu'il avait une chose qu'il n'avait aucune hésitation à utiliser, c'est-à-dire une politique très brutale et très fait accompli, tordre le bras aux différents interlocuteurs sans aucune espèce de retenue. Donc ça, il pourra le faire, mais jusqu'où il le fera avec les uns et les autres, ça, pour l'instant, je n'en sais rien, évidemment.
Alors, Trump tient à un accord. Qu'est-ce qui le motive, d'après vous, Jean-Paul Chagnolot ? Alors, on a évoqué l'objectif d'obtenir le prix Nobel de la paix. Il s'était promis d'arrêter toutes les guerres dans le monde. Qu'est-ce que vous imaginez ?
Avec ce personnage, j'imagine tout et j'imagine rien. Je voudrais que ce qui le motive, c'est son ego. Et en même temps, il doit, à un moment donné, se retrouver face à des réalités. On vient de le voir, là, pour les problèmes migratoires aux États-Unis. La justice lui a dit, ça fonctionne pas. Et au Moyen-Orient, il risque aussi d'avoir quelques déconvenues. Moi, j'en vois au moins deux. La première, c'est que on peut pas imposer par la force un règlement pour les millions de Palestiniens. Donc, même si, effectivement, ça paraît mal engagé pour eux, leur destin des mois à venir est quand même plus que préoccupant, il y aura à ce moment-là à nouveau des violences, et si c'est ça qu'on veut, on y va droit. Ça, c'est la première chose. Donc, il faudra forcément tenir compte. Si on veut vraiment un apaisement, je ne dis pas d'une paix, mais un apaisement, il faut passer par des solutions politiques qui prennent en compte une partie des droits des Palestiniens, qui serait à minima une séparation des Israéliens, et ce qui est l'inverse d'une annexion, évidemment. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Puis le second, je ne crois pas que Riyad soit sur les mêmes bases qu'il y a quelques années. Il s'est passé des choses avec Téhéran, il y a eu un accord avec Téhéran, et je pense que dans le Golfe, au fond, on est très préoccupé, bien entendu, d'abord de la sécurité, mais la sécurité, on a parfaitement conscience que c'est pas simplement d'un point de vue militaire. C'est un peu incontournable, le militaire, bien sûr, mais ensuite, s'il n'y a pas là encore un prolongement politique, et les quelques contacts que j'ai eus récemment avec des diplomates saoudiens, j'étais surpris de voir que leur regard sur l'Iran était un peu différent, quoi. C'est-à-dire qu'ils pensaient plutôt à des questions de sécurité collective plus que à seulement se positionner dans une forme d'affrontement potentiel, même si, bien entendu, ça reste d'actualité. Donc, ces éléments, à la fois la question palestinienne et le rapport à l'Iran peuvent être sans doute des objets forts sur lesquels l'ego de Trump n'aura pas forcément de prise. Il ira sûrement avec brutalité, c'est sa méthode, mais la brutalité a évidemment ses limites. Elle se casse aussi sur la réalité parfois.
Alors justement, et on reste à la question iranienne, cet accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite place finalement les Saoudiens d'une certaine manière en désaccord avec les Israéliens. Et la question qui se pose, c'est quelle est la priorité pour Benjamin Netanyahou en dehors de Gaza ? C'est l'Iran, Nicolas Falaise ?
Disons que tout le monde doit refaire ses calculs en ce début d'année, à commencer par l'Iran, dont l'influence régionale a subi un recul historique, à la fois avec la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, et puis les coups sévères reçus par les différentes formations de l'axe de la résistance, Hamas palestinien, Hezbollah libanais en tête. Aujourd'hui, le positionnement régional de l'Iran et sa réflexion sur l'accélération ou pas du programme nucléaire sont conditionnés par cette nouvelle réalité. Donc, premier calcul qui est celui de l'Iran, qui est peut-être en train d'être fait, on ignore dans quelle direction, même si évidemment les Occidentaux ne cessent de dire qu'ils sont très inquiets des progrès du programme nucléaire. Et le deuxième calcul, c'est évidemment celui de tous les faucons qui, à Washington comme en Israël, seraient tentés de s'appuyer, de profiter de ce moment d'affaiblissement de l'Iran pour poursuivre une confrontation qu'ils espèrent gagnante. Mais là, évidemment, on rentrerait dans un autre chapitre conflictuel aux conséquences potentiellement dévastatrices. Mais d'un côté comme de l'autre, on peut imaginer que c'est cette réflexion-là qui est en cours dans la région.
Alain Diakhoff, une fuite en avant d'Israël sur l'Iran, c'est ce qui est à craindre dans un futur proche et moyen ?
J'utiliserai pas le terme fuite en avant parce que je pense que si d'aventure il y avait une opération militaire importante, en particulier pour stopper ou mettre à mal le programme iranien, ce sera le fruit de réflexions très avancées. Parce qu'en réalité, ça fait 10 ans qu'on parle de cette possibilité. Pour le moment, elle ne s'est jamais matérialisée. La différence est en effet le contexte, c'est-à-dire que l'Iran est affaibli comme il ne l'a jamais été. Il a perdu ses relais en Syrie, il a quand même, le lien avec le Hezbollah au Liban continue à être là, mais le Hezbollah est, comme on le sait, très affaibli. Donc ça, c'est la configuration qui a changé. Ce qui a changé aussi, c'est qu'on a une administration Trump qui, à mon avis, va augmenter la pression sur l'Iran, elle aussi. Donc là, c'est quelque chose qui objectivement favoriserait davantage une intervention israélienne. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle se fera, en fait. Je crois que le passé doit là un peu nous servir de guide aussi. Il y a beaucoup d'options qui finalement ne se matérialisent pas. Donc peut-être que là aussi, rien n'arrivera.
Jean-Paul Chagnolo, votre opinion ?
Moi, je crois que c'est une option qui est sur la table depuis très longtemps. Je crois qu'il ne faut plus parler maintenant de progrès sur le nucléaire. En fait, je pense que maintenant, ils sont au seuil. Après, il y a de multiples questions techniques, mettre des ogives sur des missiles, etc. Mais à mon avis, ils sont, d'après ce qu'on peut voir dans les rapports de l'AIEA, ils sont au seuil maintenant. Donc, c'est potentiellement, dans les temps qui viennent, une puissance du seuil nucléaire. Je n'ai pas dit une puissance nucléaire, mais du seuil nucléaire. Et c'est vrai que c'est un État aujourd'hui qui, sur plan international et sur plan régional, est très affaibli. Et en même temps, il faut prendre en compte les contradictions internes à l'Iran, outre le fait que le guide en a peut-être plus pour très longtemps. Je pense que la présidence aujourd'hui de l'Iran n'est pas la même. Le vice-président est Zarif, par exemple. Zarif, c'est quand même celui qui a, pendant des années, voulu un accord sur le nucléaire. Il l'a obtenu en 2015. Alors, on n'est plus en 2015, on est 10 ans après, bien entendu. Mais je veux dire qu'il y a aussi, de la part de l'Iran, sans doute une compréhension différente de la situation. Parce qu'ils sont aussi, sur le plan économique, dans des grandes difficultés, pas simplement sur le plan international. Et par conséquent, c'est pour ça que j'ai toujours cette illusion, peut-être, que des accords politiques, en termes de sécurité collective, sont possibles dans cette nouvelle configuration. Et ça serait la meilleure des chances pour le Moyen-Orient tout entier. Et une fois encore, les pays du Golfe, et en particulier les Émirats, qui sont au premier rang, si j'ose dire, et un conflit avec l'Iran, pour eux, c'est catastrophique. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a ce que ça représente matériellement. Ce sont des grandes puissances. Les Émirats, en réalité, ce n'est pas une grande puissance dans une guerre. Qu'est-ce qu'ils vont peser ? Ils font quoi ? Ils ne font pas 1 million d'habitants, quelques centaines de milliers d'habitants, même s'ils ont une armée qui est très, très développée techniquement. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une option possible, même si elle est plus complexe, d'accord politique pour un peu calmer le jeu. Mais là encore, tout dépendra. On revient toujours à la même question de ce qui va sortir de Washington.
Et la question qui se pose aussi, c'est la réaction de l'Iran face à une normalisation des relations entre ces deux ennemis que sont Israël et l'Arabie Saoudite, même s'il y a cette réconciliation entre Téhéran et Riyad.
C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et je pense que là, aujourd'hui, Riyad est sur une posture consistant à dire oui à la normalisation à la condition que la question palestinienne soit réglée, mais dans quelles conditions ? C'est-à-dire qu'on revient au plan de l'Alliance arabe d'il y a 23 ans, c'était en 2002, qui était une normalisation conditionnelle. Donc c'est ce qui ressort aussi aujourd'hui, mais évidemment dans des conditions différentes. Qu'est-ce que c'est que cette... Jusqu'où va aller Riyad ? Jusqu'où va tenir Riyad ? Et ça, c'est une grande question.
Alors, deux questions pour terminer cette émission qui, bien sûr, aurait mérité davantage de temps. On parlait de la relation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Nicolas Falaise, le Premier ministre israélien, il est d'après vous plus libre ou moins libre aujourd'hui sous Trump que sous Biden ?
Alors, en quelques jours, on l'a vu sous pression américaine et se faire tordre le bras pour accepter ce cessez-le-feu dont il n'a pas voulu et auquel il a résisté pendant des mois sous l'administration Biden. Et en même temps, il reçoit dans les jours qui suivent énormément de gages en termes de soutien militaire et puis ses propos aussi très troublant de Donald Trump évoquant le départ d'une partie des Palestiniens de la bande de Gaza, ce qui quelque part semble caresser le rêve de l'extrême droite israélienne de se débarrasser du problème palestinien en se débarrassant des Palestiniens. Donc où se stabilisera la rationalité de l'acteur américain dans les mois qui viennent entre l'envie effectivement de stabiliser la région, de consolider des alliances entre les alliés de Washington et l'autre tentation qui est celle de flatter un gouvernement israélien très à droite, mais aussi la base chrétienne évangélique républicaine qui, elle, rêve d'une souveraineté israélienne sur les territoires palestiniens, à commencer par la Cisjordanie, qu'ils appellent Judée et Samarie, comme les colons israéliens. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'acteurs, de forces qui peuvent être contradictoires et qui devront être arbitrés dans les prochains mois.
Alain Diakhoff, en guise de conclusion finalement, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que la reconfiguration régionale qui se met en place se fait à la faveur d'Israël ?
Je dirais que, en un certain sens, dans le moyen terme, certainement oui, parce que à l'issue de cette guerre, on a quand même un Hamas affaibli, même s'il est toujours présent. On a un Hezbollah affaibli, mais même si là aussi il reste toujours présent. On a une Syrie, alors ça c'est pas un effet direct, mais c'est quand même quelque part aussi un effet indirect de la guerre, l'offensive que les troupes rebelles syriennes ont pu mener et donc aller jusqu'à Damas. C'est la fin du régime Assad, donc l'installation d'un nouveau régime qui visiblement aura quand même beaucoup de soucis de type interne et donc ne cherchera pas tellement à jouer sur le plan régional dans l'immédiat. Donc ça c'est aussi plutôt une bonne nouvelle et ça rompt évidemment le contact direct qui pouvait exister entre Liban et Iran via l'Irak. Donc de ce point de vue-là, oui, je pense que la situation objective en termes de puissance est plutôt à l'avantage d'Israël aujourd'hui. Mais aussi, d'un autre côté, bien évidemment, on peut aussi dire que tout cela ne fait pas avancer d'un iota un règlement de nature politique. Et ça, ça reste évidemment une question qu'il faudra bien un jour ou un autre aborder, mais qui pour le moment est totalement mise de côté.
Jean-Paul Chagnolot.
Moi, je crois que les reconfigurations qui sont une réalité aujourd'hui, qui sont fondées uniquement sur le militaire, j'en reviens à cette obsession, et en définitive sur les destructions, à Gaza, destruction en Syrie, etc. C'est une illusion de penser que ça peut conduire sur du moyen terme à une véritable reconfiguration et un apaisement. La vraie reconfiguration, elle passe par des accords politiques, par des règlements même partiels des problèmes. Sinon, finalement, c'est un peu une illusion. Il y a une espèce de formidable, comment dirais-je, fumée qui sont liées à tous ces bombardements au sens théorique et symbolique du terme. Mais quand cette fumée va retomber, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des ruines, on va voir des destructions. C'est ça qu'on appelle une reconfiguration, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Et donc, en plus, Israël a des contradictions politiques très fortes aujourd'hui, sociologiques très fortes. Donc, je ne crois pas que sur le moyen terme, ce gouvernement a gagné quoi que ce soit, si ce n'est une illusion de puissance. Et la puissance, ça va, ça vient. Donc, une fois encore, c'est le politique qui nous le dira. S'il n'y a pas des perspectives politiques solides, c'est une illusion de reconfiguration.
La force ne peut s'imposer dans la durée. Merci Jean-Paul Chagnolot. Je rappelle que vous êtes professeur émérite des universités, président de l'IREMO. Merci aussi à Alain Diakhoff qui était avec nous par téléphone, directeur de recherche au Centre de recherche international de Série de Sciences Po, qui a récemment publié Israël-Palestine, une guerre sans fin. Et Nicolas Falaise, journaliste à RFI, spécialiste du Proche-Orient géopolitique, était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur rfi.fr.